Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique numéro 12, Finance Vérité, a pour titre aujourd'hui « Prétentions politiques amènent faillite économique et malheurs sociaux ». En effet, dans l'actualité économique générale, nous apprenons ce lundi 10 août, hier, du Financial Times Deutschland, que les prochains Airbus A320 seront assemblés en Allemagne. La finition de ces avions, qui firent le succès mondial de la société Airbus, devenue Airbus Industries, partagée jusqu'ici entre Toulouse et Hambourg, se fera prochainement entre l'Allemagne et la Chine. Le site internet de France Info ajoute « La nouvelle génération de l'avion européen, SIC, sera donc assemblée à Hambourg. Cette décision du tout Hambourg et d'autres, assemblées en Chine sous licence, serait en rapport avec les discussions visant à emprunter 3,3 milliards d'euros auprès d'un groupe de 4 pays, l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Ce prêt serait devenu nécessaire à cette société de construction aéronautique qui fut brillante pour développer son futur appareil longue distance A350 d'ici 2013. On attend, comme toujours, l'impact très probablement négatif sur les emplois français. Je me rappelle, il y a 6 ou 7 ans, lorsque l'avant-projet de l'A380 fut rendu public, ayant rapidement compris les objectifs envisagés, j'ai tout de suite déclaré et écrit à l'époque que l'A380 serait le bouillon d'Airbus. Le fait de vouloir développer un très très gros porteur de 1000 passagers et membres d'équipage sur 2 ponts complets nécessitait forcément d'énormes moyens pour les compagnies appelées à le commercialiser. Énormes moyens pour l'achat, malgré la hiérarchie complexe des montages financiers, mais aussi énormes moyens pour son exploitation et sa maintenance. Le prix de revient du passage, même lissé sur 850 pax payants, était prévisionnellement hors norme et impossible à répercuter sur les ventes. Le trou financier prévisible d'exploitation s'annonçait lui aussi énorme malgré les efforts pour le rendre le plus économique possible. C'était si vrai que Boeing, qui envisageait le même genre de liner depuis des années, y renonça en fait, mais fort habilement. Je notais à l'époque que le board de Boeing continua durant des années jusqu'en 2007 à entretenir le mythe de sa volonté de réaliser le même avion. Des piqûres de rappel médiatiques furent ainsi distillées dans le but de pousser Airbus à la faute. Durant ce temps, Boeing travaillait bien davantage à son futur avion spatial de 300 pax capable de relier New York à Tokyo en 25 minutes, suivant une courbe empruntant une orbite orthodromique partielle. Cet avion économisera énormément de carburant grâce à cette évolution aux trois quarts balistiques. Pendant ce temps, les dirigeants, encore français alors, d'Airbus, surfaient allègrement sur le succès commercial inouï de l'A320. Les Américains avaient bien tenté de freiner l'expansion des ventes d'A320 en interdisant l'atterrissage aux USA d'un transatlantique qui ne comportait que 2 moteurs. Bien, évidemment, sous le prétexte de la sécurité. Mais ils échouèrent devant la rentabilité de cet avion absolument exceptionnel pour les compagnies aériennes. Même les Américains se virent donc vaincus par le tabou du profit sacro-saint. Boeing souffrait et vendait mal, son chiffre d'affaires baissait, celui d'Airbus arrivait au 7e ciel. Les dirigeants d'Airbus se gaussaient de Boeing et crièrent bien trop fort « Cocorico ». Ils foncèrent sur le projet de l'A380 et rirent des difficultés de Boeing à finaliser son propre projet qui ne restait que dans leur carton. Ils auraient mieux fait de réfléchir et de m'écouter. Si j'avais été membre du board d'Airbus, j'aurais été contre ce projet insensé. Et j'aurais poussé l'A340 à 4 moteurs et l'A350 peut-être en ce moment. Ils m'auraient licencié sûrement pour avoir eu l'audace de contrarier la franc-maçonnerie, sa politique et son orgueil. De plus, ils montèrent un véritable barnum, faisant transiter sur des routes spécialement réaménagées, au long d'un trajet qui fut rendu populaire par les complices médiatiques de la secte, dont le seul but politique des élections et des intérêts oligarchiques locaux, nationaux et internationaux. Les pièces, elles-mêmes aussi de la 380, commencèrent donc à être véhiculées au pas de promenade au long de milliers de kilomètres entre l'Allemagne et Toulouse. On apprit que les logiciels allemands ne communiquaient pas avec les Français, que les câbles ne se connectaient pas. Bref, les retards de livraison provoquèrent l'annulation de la quasi-totalité des commandes. Ce fut donc le bouillon. Un bouillon qui était pourtant prévisible et prévu, surtout avec l'expérience de la défunte fusée Europa, fabriquée avec les mêmes tares. Aujourd'hui, l'obtention d'un prêt allemand, pour l'essentiel, est donc conditionnée à la délocalisation complète de la fabrication de l'avion le plus rentable de la compagnie, à Hambourg, et qui devrait nous rappeler pourtant Peenemünde, et en Chine, qui en fabrique déjà sous licence et a déjà capté la technologie. Airbus, de conception française, nous échappe, tout comme Concorde en son temps, parce que des crétins ont mélangé la politique et la corruption à l'industrie. Bien joué le board de Boeing, qui spécula sur l'éternelle prétention française. Pour s'être laissé manœuvrer politiquement, les Français vont se voir privés de milliers d'emplois directs et indirects. La quasi-faillite du modèle de la grosse industrie est dénoncée ce jour dans Le Monde par un certain Camille C., pseudonyme peut-être, qui s'interroge sur le prévisible déclin du salariat et sur la date prochaine de la déclaration de décès des 9 tomes du Code du travail, remarquant que l'avenir, comme par le passé, rappelons-le, est aux PMI et PME, désormais capable de travailler en réseau. Je ne cesse de dire et d'écrire depuis 1976, ça fait quand même 43 ans, que les fusions et concentrations nous mènent au gouffre. Nous y sommes. Par exemple, dans les Landes, les bourgs se désertifient comme à Jettemau de leurs petites industries du fait des concentrations subventionnées par les impôts. Maïs Adour, Delpera absorbent tout grâce aux impôts. Et les petites entreprises disparaissent. Quand donc va-t-on enfin en France devenir adulte? Une fois au fin fond? La séparation de l'industrie et de la politique, à mon avis, devrait être inscrite dans la Constitution. Mon conseil patrimonial du jour, tout à fait économique et financier, vous demande de vous souvenir que la somme des plus-values et des intérêts, ou des dividendes, c'est pareil, sur les actions véritables, et pas leurs ersatz, s'appelle valorisation. Souvenez-vous qu'aucune valorisation n'est attendue d'un placement en compte bancaire, mais seulement, et partiellement, un petit peu d'intérêt, une sorte d'obol. Souvenez-vous que la valorisation à long terme sur les valeurs étrangères est toujours supérieure à celle observée sur les valeurs françaises et européennes. Il y a quand même bien des raisons. Il existe des valeurs qui versent des dividendes trimestriels. Pourquoi dès lors ne pas y penser pour constituer une rente de complément ou de remplacement, si besoin, à celle des caisses à capitaux disparues dites sociales? La faillite sociale et économique est plus que proche. Tout le monde va se retrouver tout nu et obligé de cultiver son jardin pour manger, car la monnaie aura disparu comme il y a 5 siècles. Dur est l'avenir, préparez-vous-y en relisant ci-dessous et en m'écoutant éventuellement le passé. En 1360, on voit apparaître, émise par Jean II le Bon, une nouvelle pièce d'or pure de 24 carats de 3,88 grammes, toute petite, taillée à raison de 63 pièces le marque de 244 grammes. Cette pièce matérialise alors une livre tournois d'or, laquelle a donc subi du fait de la guerre une forte dévaluation de près de 94% sur 1295, où elle pesait encore 63,21 grammes en pleine crise. Mais cette pièce véhicule aussi un message, celui de la nécessaire libération du roi de France après paiement de la rançon au roi d'Angleterre. On y voit en effet à son avers le roi à cheval avec son écu, libre, rendu franc en vieux français. Bien que le mot franc ne soit point inscrit, il est clairement exprimé, et c'est donc de cette pièce que les historiens datent la première apparition du franc en tant que monnaie. En fait, malgré ce message, les Français renâclent à payer les 3 millions d'écus réclamés par Édouard III suite au traité de Bretigny, et le roi de France, vaincu, retourne se constituer prisonnier, conformément à son devoir d'honneur féodal en 1364. Il mourra 3 mois après, à Londres. Il faut rappeler que cela venait après une précédente défaite l'année d'avant, en 1359, et un honteux traité, refusé déjà par le dauphin et les États, malgré l'acceptation du roi qui livrait la moitié de la France et une rançon de 4 millions d'écus à l'Angleterre. 111 ans plus tard, en 1475, la lutte contre l'Angleterre a épuisé la livre tournois qui ne pèse plus que 0,01933 d'or pur et en argent 4,64 g découpé en 240 petits deniers. On n'ose même plus parler de poids d'argent. Toute identité de la livre tournois avec la livre poids est complètement perdue. La dévaluation est fantastique et elle l'a rendue quasi virtuelle. Les protestations des contemporains de Philippe le Bel apparaissent maintenant bien futiles au sujet de Catherine de Médicis. 12 deniers valent un sol, c'est nouveau, et après avoir échappé aux Anglais, les Français voient leur monnaie italianisée. 20 sols matérialisent une livre tournois dévaluée. Notons que cette hiérarchie monétaire a perduré en Angleterre jusqu'à la toute récente décimalisation du sterling, qui valait jusque dans les années 70 encore, justement 20 shillings de chacun 12 pence. Il fallait donc encore de 240 pence pour faire une livre sterling, et le nouveau penny décimal vaut donc 2,4 fois plus que l'ancien, puisqu'il n'y a désormais, depuis seulement 25 ans environ, que 100 nouveaux pence par livre sterling. Il semble que ce soit des règles maçonniques européennes imposées depuis Londres à la France en ce 15e siècle crucial qui voit s'imposer la franc-maçonnerie avec ses manipulations politiques et son cortège d'escroqueries. Mais revenons à la livre tournois, qui, en or, est alors matérialisée par un écu d'or au soleil, c'est son nom, de 4,64 g. En France, les métaux nobles se font rares et l'émission monétaire devient impossible pour le peuple entier. La monnaie n'est plus utilisée que par les personnes dites de la haute société, comme sous l'Antiquité. Le peuple ne dispose plus que de pièces sans valeur, il est spolié. Mais le cas français n'est pas isolé en Europe. L'Europe tout entière a soif d'or et d'argent, et l'Espagne lance Christophe Colomb à la conquête de l'Amérique, dont on sait déjà la richesse par les rapports des précédents explorateurs, notamment portugais. En 1492, l'or est tellement abondant aux Amériques qu'il ne vaut plus rien là-bas. Arrivant par galion entier en Europe, il y retrouve une valeur d'autant plus énorme que le sevrage était ici ressenti trop durement. Dans notre prochain chapitre numéro 13, nous verrons comment cette conquête et ce pillage de l'or américain va empoisonner l'économie européenne. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence. À fin août.